du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans ce numéro 735 du Coq à l'âne avec du monde autour de la table, les coqualiens. Il y a Michel Roussel, Bruno André, Jean Cointe, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
et
à tous.
Nous avons notre invité Christophe Pirel qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Christophe. Alors on va commencer gentiment avec les bonnes nouvelles de la semaine. Moi, j'en ai une qui est formidable, celle-là. Bientôt, nous aurons enfin des chargeurs de téléphone universels. Alors, je ne sais pas si vous vous en foutez, mais moi, je trouve ça très bien parce que c'est insupportable d'acheter un téléphone et d'avoir à chaque fois un chargeur différent. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, on est d'accord.
Merci. Ça
fait plaisir. On va libérer un tiroir.
Voilà, ouais. Allez.
Plein de chargeurs.
D'autant plus que pour une fois, ils ont fait plier le géant américain avec la petite pomme, là.
Oh, c'est pas encore acquis.
Ah, c'est pas acquis. On va l'avoir.
C'est européen. Franchement, c'est obligatoire. Il n'a pas le choix.
Voilà.
La pomme.
La pomme n'aura pas le choix et c'est tant mieux. Voilà, deuxième bonne nouvelle, c'est celle-là.
Ah, tu savais en fait. T'as fait semblant. Mais qui a bien pu se marier ?
Il a convolé en juste noces, les enfants. Eh oui, François a épousé Julie. Il s'est marié pour la première fois. C'est go et un peu verte, hein, parce que il l'avait jamais demandé en mariage, hein, jamais. Tu es invité ?
Non.
Non.
Il nous a amené les dragées de Corrèze. Oui.
Non, mais c'était dans un cadre familial, et tant mieux. Je vois pas ce que j'aurais été faire là-bas.
Je sais pas, moi, comme tu
mais
as.
Tant mieux, c'est beau, moi, je serais bien pour eux.
Ouais, non, mais c'est très bien.
C'est chouette. Après toute cette histoire. Mais je suis pas sûr que ce soit François Hollande qui n'ait pas voulu épouser Ségolène Royal. Hein. Je crois que c'était plutôt l'inverse.
Ah, d'accord. Ok. Ségo qui voulait garder sa liberté.
C'est trop bien.
D'accord.
Chacun fait ce qu'il veut.
Ok. Non, mais tu étais au courant ?
Oui.
Ah, t'étais au courant quand même. Hein. T'es au courant. D'accord. Ok.
On garde quelques contacts.
Ouais. Alors François Hollande qui.
Les bans avaient été publiés. C'est légal en fait. C'est très surprenant que ça ait été découvert après.
Après, puisque en fait, oui.
C'est normal. Les bans sont publiés en amont. Si quelqu'un avait surveillé les panneaux de la mairie de Tulle, le problème c'est que je pense qu'effectivement c'était ça le sujet. Tout le monde ne passe pas dans la mairie de Tulle régulièrement.
Et oui.
Regardez les affichages. L'affichage légal de la ville.
On s'en fout. Ah, mais non, on s'en fout pas.
De son mariage.
Attends, moi je trouve ça très bien.
C'est sympa. Non événement.
Mais non, je suis pas d'accord. Moi je suis toujours très content lorsqu'il y a des mariages. Je trouve que ça fait plaisir et tout. Dans ce monde de fous.
Ça fera des divorces, c'est bien aussi.
Dans ce monde de fous dans lequel nous vivons, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Tu vas être content de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de mariages.
Oui, c'est vrai.
Et de moins en moins de divorces.
Par la même. Mais c'est vrai.
De notre côté, ça rejoint un peu le sujet qu'on avait abordé avec Christophe là, avant d'enregistrer l'émission, qui était la vie publique des hommes politiques. Est-ce qu'on est obligé en permanence d'étaler tout ça ? C'était aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'était un petit peu un frein à l'engagement politique, parce que tu disais que les jeunes politiques, quand ils se lançaient, aujourd'hui, ils n'avaient plus de vie privée et ils étaient... C'était compliqué.
T'as raison, parce qu'en plus, je pense que Hollande a fait la charnière avec Sarkozy, en fait, sur la médiatisation et la.
Comment dire ? La vie privée.
La pipolisation de la vie politique. C'est vrai que Sarko avait lancé cette démarche-là, et le premier qui en a pris, je pense, avec l'histoire de Julie Gayet, d'ailleurs.
Ouais, c'est quand même François Hollande.
Mais sauf que dans le monde avant, effectivement, de la politique, la vie privée n'était pas un sujet. La question de l'engagement et la question des idées étaient au cœur, la question du projet. Maintenant, effectivement, on te demande une hyper-exposition, une hyper-transparence qui peut effectivement être un frein, je pense, à l'engagement politique.
Bon, je trouvais que c'était très bien parce qu'il y avait d'abord le scooter et puis il y avait la rue du cirque aussi.
Ça. Ouais,
c'est vrai.
Tout concourait pour faire un truc parfait.
C'est vrai. Et les croissants. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Voilà. Ouais, mais dans l'histoire des présidents de la République, tu sais comme moi, Jean, que ça n'a sans doute pas été le premier.
Ah bah non.
C'est peut-être pas le dernier. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en revanche, que ça soit un paramètre de jugement politique est un problème. C'est-à-dire que ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée, tu vois.
Entièrement d'accord.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que cette hyper-transparence, elle joue dans le désengagement de certains, et on perd, je pense, des gens aussi de qualité. Non pas parce qu'ils ont des choses à cacher, mais parce qu'en fait, ça peut effrayer d'être toujours sous le feu, des critiques, des lumières, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, qui ont besoin de se nourrir en permanence et de critiquer, d'exposer. Et c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui, de continuer à faire de la politique dans ce milieu-là. On perd en qualité, je pense. Il y a des gens qui, du coup, ne s'engagent plus. Et c'est un vrai problème.
François Hollande.
Parce qu'en fait, le véhicule était mal approprié. Quoi. C'était pas un scooter qu'il fallait prendre, c'est une voiture. Ça aurait...
ah.
Mitterrand aurait pris une voiture.
Ah, Mitterrand, il aurait été faire chercher ses croissants. C'est pas lui qui serait allé.
Oui, surtout, il aurait sans doute effectivement empêché le média en question de publier. Parce que je te rappelle que les pratiques n'étaient pas les mêmes. Enfin, t'imagines quand même qu'à l'époque, tout le monde était sur écoute, qu'il y avait quand même une situation que François Hollande s'est totalement refusé. Parce que. La présidence normale qu'il avait lancée quand même à l'époque, c'était aussi celle qui n'empêchait pas un journal de publier ce qu'il avait à publier, parce que sinon je pense qu'il y en a d'autres, même encore récemment, qui auraient joué de ça. Et ça, en l'occurrence, lui, il a toujours refusé, parce que la publication, il en était sans doute informé avant que le journal sorte.
Ouais. Ça avait quand même commencé avant Hollande, quand même. On ne peut pas exagérer.
Bah oui, c'est avec Sarkozy.
Mais Sarkozy, il a ouvert les vannes, en fait.
Il y avait de la transparence. Il y a de plus en plus de transparence. C'est vrai qu'en 81, il n'y en avait pas beaucoup.
Ah bah, il n'y en avait pas du tout.
Oui, c'était même un retour à l'ère...
C'était interdit. For Biden.
Mais la charnière, c'est Sarkozy. Sarkozy, il a ouvert la question de la pipolisation, mais aussi d'ailleurs l'utilisation des réseaux sociaux.
Au début, il en a joué à son intérêt, et ça s'est peut-être retourné contre le monde politique.
Je vous rappelle une anecdote aussi, c'était en 74, Giscard d'Estaing est chopé à l'heure du litier, avec un accident, il était sorti avec une nana. Et
tu peux parler un peu plus fort, parce qu'on ne t'entend pas là.
Il a bugné une voiture en rentrant à l'Elysée. Alors.
Ah d'accord, il s'était fait choper. Voilà. On revient sur François Hollande.
Il est endormi, Jean, non ?
Un petit peu. Oui. On revient sur François Hollande.
Réveillez-vous, par contre.
Est-ce que quelqu'un peut nous envoyer Jean Cointe, s'il vous plaît ? Pas son double.
Alors, je reviens sur François Hollande, qui s'est donc marié, mais qui n'en a pas pour autant perdu sa verve légendaire, n'est-ce pas ? Et notamment, il n'a pas été très tendre avec la NUPES. Écoutez ce qu'il dit.
Vous avez parlé des frondeurs pendant le quinquennat de François Hollande. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la victoire des frondeurs avec la NUPES ?
Les frondeurs n'étaient pas si nombreux, ils étaient...
Oui, mais ils ont empoisonné un peu la...
Ils étaient empoisonnants, c'est le mot que vous avez utilisé.
Et que vous reprenez.
Oui, au sens où c'est un poison lent. Vous voyez, ça infuse. Et donc aujourd'hui, ceux qui s'opposaient à ce que je faisais avec les gouvernements que j'avais composés se retrouvent derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais autour de quelques grandes questions. La première grande question, c'est la crédibilité. C'est vrai que c'est tentant de faire des propositions qui sont incantatoires. À cet égard, le programme de la NUPES est un programme que j'estime infaisable, inapplicable, au sens où, si on prend chaque mesure en particulier, aucune ne me gêne, mais toutes, globalement, elles rendent impossible bien, bien davantage encore que ce qu'avait tenté François Mitterrand en 1981 et qui s'est arrêté en 1983.
Ouais. Une réaction ?
Non, mais moi, je pense que... Je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois que je suis venu ici, c'était encore la présidentielle, on avait eu ce débat sur Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, qui pour moi ne représente pas la gauche de gouvernement, c'est-à-dire que ça reste effectivement une gauche d'opposition. Après, aujourd'hui, il y a un accord qui est... Je crois pas que ce soit fait pour gouverner en vérité, et c'est pour ça que ce que dit François Hollande, il a raison. C'est-à-dire que c'est une agrégation d'idées des uns et des autres.
Très bonne idée, hein.
Oui, alors pas toutes, mais il y en a,
sur
lesquelles ils sont même pas forcément tous d'accord. C'est intéressant d'ailleurs de voir, tu vois, si tu prends le nucléaire, tu prends la question de l'Europe. Moi, mes anciens camarades socialistes, quand je les entends expliquer qu'on va fronder au niveau européen, d'abord c'est irréaliste, et surtout je me suis dit mais à quel moment on se perd en fait. C'est-à-dire qu'on peut critiquer l'Union Européenne telle qu'elle est faite, on peut critiquer le fonctionnement de l'Union Européenne, de là à dire en fait qu'on ne respectera pas les traités que nous avons nous-mêmes socialistes en fait. Imaginez, enfin il y a un moment où il faut arrêter de se contredire. Donc critiquer l'Union Européenne, changer l'Europe, pas de problème, aller jusqu'à fronder en interne, tout ça est assez délirant. Après je crois qu'en fait l'idée c'est pas forcément de porter un projet qui soit cohérent et qui soit comment dire, qui soit faisable. C'est en fait de surtout sauver des postes à l'Assemblée nationale, ouais, de sauver des groupes politiques, de sauver des partis politiques qui sont au bord de la faillite. Et je pense que c'est sans doute ça, notamment chez les leaders socialistes, qui a fait qu'on est allé se soumettre à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne crois pas trop à l'idée qu'on puisse gouverner avec autant de contradictions entre nous. Si jamais, effectivement, on était d'accord sur tout, franchement, la question, elle se poserait. Et la question du leader, finalement, ce serait Jean-Luc Mélenchon, ça ne me poserait pas de difficulté. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on raconte, et notamment sur la Russie, sur l'Union européenne, etc. Bon, moi, je ne me reconnais pas sur ces questions-là. C'est un accord électoral pour gagner des sièges.
Ah, tu as dit tout à l'heure que tu étais anciennement un socialiste, tu n'es plus maintenant alors socialiste.
Bon, j'ai plus ma carte au Parti Socialiste depuis quelques temps, oui, mais moi parce que je
me reconnais. Tu participes à la faillite, hein.
Non, mais je me reconnais. Aujourd'hui, je reste, si tu veux, un social-démocrate. Je reste quelqu'un de la gauche de gouvernement. Je crois profondément qu'une gauche de gouvernement peut changer un pays. D'ailleurs, c'est la seule qui fait les choses. C'est la seule qui a réformé le pays. C'est la seule qui a donné des droits, en fait, aux gens. Une gauche d'opposition et une gauche d'extrême ne me semble pas être ce qu'il convient. Et en l'occurrence, je reste un socialiste dans ma pensée et dans la philosophie. Je n'ai pas besoin d'être adhérent au Parti Socialiste pour être socialiste.
Tu fais partie de ceux qui, si tu t'étais présenté, tu ne te serais pas présenté avec la NUPES, tu serais resté avec ton étiquette social-démocrate.
Oui, moi, j'ai pas de difficulté avec ça, et je pense qu'il y a pas mal d'ailleurs de candidats qui aujourd'hui sont sortis du Parti Socialiste et qui se présentent contre des candidats de la NUPES.
La NUPES.
mais voilà, après il y aura un choix à faire. Dans les Hautes-Alpes, là, dans la circonscription, il faudra bien faire un choix. Ouais. Et moi, je vais sans doute voter pour le candidat de la NUPES, en l'occurrence. C'est sur le candidat de gauche qui est là, en fait. Donc, ça limite le choix. Et donc, évidemment, et sans un enthousiasme débordant, je ne voterai pas La République En Marche, je ne voterai pas pour les LR, et donc encore moins pour, évidemment, le Front National. Et donc je voterai pour le candidat de la NUPES, mais un peu plus par défaut que par conviction, tu vois.
Ce que je comprends pas, c'est quel est
vas-y, dépêche-toi.
Ce que je comprends pas, c'est quel est vraiment l'intérêt pour sauver financièrement le Parti Socialiste ou même d'autres partis, quel est l'intérêt d'aller s'associer au NUPES? Parce que finalement, tu disais qu'ils
Il l'a expliqué, Christophe, il l'a dit.
Mais derrière, derrière
c'est une histoire de gros sous au départ.
Mais les gros sous, tu peux les avoir parés si tu présentes 80 ou 100
non,
députés.
Parce qu'on aurait eu, non, parce qu'après, en nombre de voix, on se serait perdu. C'est-à-dire que, et pour maintenir un groupe à l'Assemblée nationale. En fait, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. L'enjeu, c'est un, d'avoir effectivement le financement sur les 5 ans à venir pour ces partis politiques. Et là, il faut 50 circonscriptions avec effectivement.
50 candidats, tu disais tout à l'heure.
50 candidats, oui, dans les circonscriptions.
Ils peuvent les avoir.
Oui, être candidat, oui. Après, le problème, c'est que tu vas faire beaucoup moins de voix si tu te répartis les voix. Donc, du coup, le financement en tant que tel va être plus réduit. Et surtout, l'enjeu, c'est le groupe à l'Assemblée nationale. Il faut 15 membres. Et donc, si tu regardes bien la façon dont ça a été fait, chaque parti de la NUPES a autant de circonscriptions gagnables que ce qu'il faut pour faire un groupe politique. C'est-à-dire que, et c'est bien ça le sujet, c'est qu'en fait, tu comprends bien que ce n'est pas en fait fait pour gouverner. C'est fait pour avoir des groupes d'opposition. Et d'ailleurs, le lendemain de l'élection, sans doute, après le deuxième tour, la NUPES...
Je ne suis pas convaincu.
Il ne va pas avoir un groupe unique à l'Assemblée nationale. Ils vont avoir autant de groupes qu'il y a de partis à l'intérieur de la NUPES.
On verra.
Et d'ailleurs, en temps de parole, je ne sais pas si tu as vu hier soir le débat sur France 2. Ils étaient séparés. Oui, d'ailleurs, il n'y avait que des mecs. Formidable. Bon, comme ici, d'ailleurs. mais bon, si tu veux, pour la gauche de conviction féministe, j'ai trouvé que c'était une image un peu lunaire d'avoir mis que des mecs au nom des représentants de partis. Et ils étaient effectivement ce que ça va être demain. C'est-à-dire qu'ils auront effectivement 4 représentants avec 4 groupes qui seront répartis, avec autant de moyens nécessaires. Et en fait, c'est là que ça fait un peu tripatouillage. Et il n'y a pas forcément l'idée de la conviction. S'ils étaient là pour gouverner, je pense qu'en fait, le Parti Socialiste ne pourrait pas soutenir Jean-Luc Mélenchon.
Ils sont là pour gouverner parce qu'on connaît le futur gouvernement de Jean-Luc Mélenchon qui va être donc élu.
Moi, je vais me griller, je crois que j'y serai pas.
Il a dit élisez-moi. Élisez-moi, donc voilà. Alors, ministre d'État, guide des consciences, petit père des gens, chargé de la dépersonnalisation du pouvoir pour une 6e République, Jean-Luc Mélenchon. Ministre de la décroissance, de l'annulation de la dette, des nationalisations, chargé de la taxation des riches, Manon Aubry. Nous avons ministre de l'écologie, chargé du démantèlement de l'industrie nucléaire, Fabien Roussel. ministre de l'aliénation au travail.
Pour le nucléaire, Fabien Roussel, laisse-le tranquille. Le
ministre de l'aliénation au travail, chargé de la semaine des 32 heures et de la retraite à 60 ans, Philippe Martinez. Ministre de l'Intérieur, chargé du désarmement des forces de l'ordre et de l'organisation des 4e, 5e et 6e tours de l'élection présidentielle, Alexis Corbière. Ministre de la Rééducation nationale, chargé de l'élimination des comportements genrés à l'école maternelle, Caroline De Haas. Ministre de l'Amitié franco-russe et des relations avec l'Amérique chaviste, chargé de la désobéissance aux traités européens, on en parlait tout à l'heure, c'est Daniel Obono. Ministre de la Culture, chargé des happenings subventionnés, c'est Corinne Massiero. Ministre des Sports aquatiques, chargé des cultes, Éric Piolle. Ministre de la Déconstruction, chargé de l'étatisation de la vie privée et de la politique pénale des tâches ménagères, Sandrine Rousseau. Ministre de la Santé par les plantes, chargé de la lutte contre le lobby vaccinal et la généralisation du principe de précaution, c'est Michel Rivasi. Ministre de l'Agriculture biodynamique, chargé des menus de cantine scolaire sans animaux, non humains, morts ou vivants, Émeric Caron. Secrétaire d'État à la biodiversité, chargé de l'extinction des éléphants, Olivier Faure. Porte-parole du gouvernement, chargé des colères spontanées et des vidéos virales, François Ruffin.
Tiens, combien de pages? Ah, c'est fini?
Ah, c'est fini.
Non, mais t'as des gens bien là-dedans. Moi, je suis obligé de te.
Alors, et c'est pas moi qui l'ai fait. Hein.
C'est qui?
C'est un article que je suis tombé dessus, ça m'a fait rire. C'est pour ça que je voulais vous le dire. C'est l'opinion.
Mais t'as des gens bien là-dedans. Hein. Franchement, moi, je suis. Et alors, pour le coup, tu sais, histoire de Piolle, par exemple. Moi, je trouve qu'on a énormément caricaturé son histoire. Il y a la question du burkini qui est derrière, parce que tout le monde a focalisé là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant le débat. Enfin, si on avait voulu ouvrir un débat intéressant et intelligent sur la question de la liberté de tenue, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'impose effectivement de venir en maillot de bain serré, machin, avec ton bonnet de bain.
Oui.
Ou bien, effectivement, un maillot intégral, etc. Et Piolle,
il y a une question d'hygiène, hein.
D'accord, mais Piolle, en fait, n'a pas ouvert que la question du burkini. Si tu regardes bien ce qu'il a dit, il a dit tu peux venir même les seins nus.
Oui, oui. Enfin, ça, c'est ce qu'il a dit après pour se rattraper.
Son règlement, il avait été publié avant, c'était très clair. C'était une ouverture très large à la question du vêtement.
C'est ça, tu vas mettre une piscine avec des personnes à poil. Moi, j'ai envie d'y aller à poil, donc je peux y aller à poil.
Non, parce que tu es en contradiction avec la loi sur l'attentat à la pudeur, qui n'est pas la même chose.
D'accord.
Mais non, mais vous, je pense que c'est une vraie caricature.
Tu cherches un truc.
Ouais, franchement,
ce qu'il a voulu faire,
je vais mettre dans une piscine des nanas en burkini et des nanas à moitié à poil.
Et pourquoi?
Mais enfin.
Et où est le sujet?
Mais déjà, ils veulent pas y aller quand il y a des drogues.
D'abord, je pense qu'on a voulu effectivement amener ce débat dans le mauvais sens.
Il a voulu.
Non, parce que Piolle n'est pas comme ça.
Il a voulu. Si.
Non, Piolle, c'est pas. Il est pas sur ce sujet. D'ailleurs, il est toujours.
Je connais beaucoup de Grenoblois.
Reprenez ces déclarations.
Ils l'ont un petit peu en travers de la gorge, le Piolle. Moi, je dis rien. Je ne suis pas Grenoblois, mais j'en connais beaucoup.
Réélu en 2020, ceux qui l'ont.
Tu sais, à Paris, il y en a qui l'ont en travers de la gorge avec la Hidalgo.
Hidalgo, elle est largement réélue en tant que.
Voilà. Oui, mais n'empêche qu'ils l'ont quand même en travers
mais
de la gorge.
Parce qu'elle agit, qu'elle fait des trucs. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, franchement, je préfère des hommes et des femmes politiques qui font de la politique courageusement, avec des convictions, comme Anne Hidalgo, par exemple, qui est clairement, elle, pour le coup. Alors, je suis pas son grand soutien à la présidentielle, hein, tu le sais. Mais j'ai trouvé qu'à Paris, elle le fait avec courage. Elle dit, je vais dégager la voiture, elle dégage la voiture. Ça emmerde les gens, mais ça emmerde qui, en fait, finalement, puisque globalement, elle repasse à chaque élection pour l'instant. Donc,
on est parti sur un sujet qui n'était pas prévu. Donc, on va changer de sujet parce que sinon, on va en faire des heures et des caisses et j'ai pas envie qu'on perde du temps sur un sujet comme ça qui est.
C'est un maître d'école, hein.
Tu as fait ça. Je voudrais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, sur la vie politique.
Ouais.
Sur le fait que quelquefois, aujourd'hui, même souvent, c'est très compliqué d'être un homme politique. Et je voulais vous parler de l'acharnement qui a eu lieu contre Emmanuel Valls.
Alors, il s'appelle Manuel. Hein.
Oui, Manuel, pardon. Manuel Valls. Un tombereau de haine qui a été déversé donc, sur les réseaux sociaux après son élimination au premier tour des législatives. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui, c'est normal, il a bien cherché?
Je ne sais pas s'il a bien cherché. Non, est-ce qu'il ait une défaite électorale? Qu'il soit sanctionné, c'est un fait. Et à la rigueur, à ce moment-là, je trouve que sa défaite électorale, pour moi, elle est méritée. Pourquoi? Parce que je pense qu'à force de retourner sa veste, d'être dans tous les coins, de partir en Espagne, de revenir en France, de faire chroniqueur de BFM, enfin, tu vois, à un moment, les gens ne comprennent plus. Et finalement, c'est sanctionné politiquement et électoralement. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est bien, c'est normal. Après, que tout le monde s'acharne sur les réseaux sociaux, pour le coup, ça, je trouve ça débile. Voilà. qu'il en soit du coup obligé de quitter d'ailleurs Twitter, etc. Je comprends que, en fait, ça vient affecter et sur des mauvaises choses. C'était des attaques qui étaient très personnelles, très individuelles, qui n'étaient pas basées sur des choses en fait qui sont de la politique. Après sa défaite électorale, je vais pas te dire que je trouve que ça soit anormal. Il a
ah non non, mais je te parle pas de la défaite.
Et même d'ailleurs dans ses commentaires, moi je me souviens de lui qui dit je suis né pour gouverner.
Né pour la politique.
Non, il a dit je suis né pour gouverner. C'est qu'à un moment, faut aussi revenir sur terre. Manuel, il est.
Bah, il a pris le peuple pour Dieu.
Oui, ça.
Je pense qu'il avait une très bonne circonscription qui était Conflans-Sainte-Honorine, je pense, c'est ça.
Non, il était sur les Français de l'étranger.
Oui, oui.
Mais attends, quand il était maire.
Non, il était à Évry.
À Évry. Il avait un fief électoral à sa mesure, il fallait qu'il le garde. C'est l'aventure espagnole qui l'a foutu.
Ah oui, non, mais
ils ne comprennent pas, quoi.
Je rebondis très rapidement sur ça. J'écoutais la dernière fois Caroline Forest qui disait une chose sur ce sujet. Elle disait, il y a une chose intéressante. Elle disait qu'elle préférait, alors, tu me diras ce que tu en penses, les gens qui changent de camp pour rester fidèles à leurs convictions plutôt que des gens qui changent de conviction pour rester fidèles à des étiquettes qui vont leur permettre d'avoir des sièges.
Oui, alors je suis d'accord avec toi, Manuel Valls, il est de droite. Il n'a jamais été socialiste. C'est quelqu'un, effectivement, qui, par opportunisme de circonscription, notamment à Évry, etc., s'est retrouvé à être élu au nom du Parti Socialiste à l'époque. Et donc il a commencé, à mon avis, effectivement, en décalage avec ses propres convictions. Il est revenu dans son camp. Mais dans un sens ou dans l'autre, en vérité, le problème, c'est d'avoir mal commencé. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il a trop changé. Mais aussi géographiquement, c'est sûr que quand tu pars en Espagne, que tu fais quatrième au municipal, que tu abandonnes là-bas, tu reviens en France, tu fais des trucs de commentaires politiques, après tu vas voir Macron, oui. Sur qui t'as tapé à l'époque, comme un sourd. Finalement, tu vas effectivement... parce qu'il a été...
Il essaye d'avoir un poste de ministre.
Ben voilà, il a tout essayé pour l'être. Donc à un moment, je pense que les citoyens... ils lisent la vie politique aussi avec intelligence. Il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ça ne marche plus, le truc de il suffit de se présenter dans une circonscription avec une étiquette pour être élu. Les gens regardent, lisent, interprètent et sont plus intelligents, effectivement, dans leur choix.
Tu y crois à la conviction en politique ?
Oui, bien sûr.
Bon, lorsque tu t'es défait de Christophe Castaner, donc c'était aux élections régionales, Oui, à la fin des élections régionales.
Quand il a rejoint Macron.
Donc tu l'as fait par conviction. Ton départ, en fait, le fait
de... C'est moi qui suis parti, c'est lui. C'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti à La République En Marche.
Non. Au moment de l'élection. Au moment de l'élection.
Des régionales.
Il y a une cassure entre toi et lui.
Ah ben non, il n'y a pas eu de cassure. Au moment des régionales, il n'y a pas eu de cassure. On a été au premier tour de l'élection régionale. À ce moment-là, il était troisième. Il a décidé de se retirer. Il était tête de liste, c'est lui qui a signé.
Le soir où il a décidé de se retirer, étais d'accord ?
Ah non.
C'est ce que je dis.
Il n'y avait plus d'élection. Le lendemain, c'était au lendemain de l'élection que c'était terminé. Moi, je ne me suis pas désolidarisé pendant l'élection.
Non, mais
il a choisi
un nouveau chemin. Moi, je me souviens de ta tête, à la télé. Je me souviens de ta tête, à la télé. Tu étais derrière lui. Quand il annonçait ça, tu faisais une tronche.
Bien sûr, mais je ne me suis pas désolidarisé sur le moment. Le lendemain de l'élection, en revanche, quand il a eu pris la décision. De quitter son rôle en fait de chef de liste. Et à ce moment-là, les choses étaient à nouveau libres, puisque de toute manière, il n'était plus candidat. Et lui, en plus, a fait le choix juste après de rejoindre Emmanuel Macron. En fait, c'est lui qui a fait un pas de côté, c'est pas moi. Hein.
Oui, mais enfin,
j'ai suivi la ligne.
Le soir où il a décidé de se retirer.
Je fais aucun commentaire.
Tu en as parlé avec lui, je suppose.
Oui, mais.
Bon, et donc ce soir-là, il y a eu une cassure d'entrée.
Oui.
Ben voilà, c'est bien ce que je te dis. Donc il y avait une cassure parce que vous n'étiez pas sur la même ligne.
Ah non, mais bien sûr, mais c'est lui qui a fait, pour le coup, le pas de côté. C'est-à-dire que c'est lui qui est sorti de la ligne dans laquelle il s'était mis. Le vendredi soir avant l'élection, parce que ça aussi, il oublie de le raconter. Le vendredi soir, juste avant le premier tour, Christophe Castaner décide de se maintenir quoi qu'il arrive.
Et
il annonce à l'intégralité des têtes de liste que quoi qu'il arrive, il se maintiendra au deuxième tour. Et donc tout le monde a validé cette ligne. Quand le soir en fait, de l'élection, il fait l'inverse, évidemment que lui crée la cassure. Mais moi, à ce moment-là, j'ai des convictions. Oui, effectivement, je soutiens la ligne sur laquelle on a décidé d'être depuis le début. Il se met en marge une première fois, une deuxième fois, en partant chez Emmanuel Macron.
On risque de faire gagner le Front National.
Mais après, franchement, je vais te dire...
Le problème était là. Était dire, le risque était que la région bascule au Front National quand même.
Non, mais il y avait un risque. D'abord, l'Alsace était dans le même risque et l'Alsace n'a pas basculé au Front National, premièrement. Mmh. Ils se sont maintenus. D'ailleurs, ça a été pour le coup un drame et tout. Finalement, ça s'est passé. Tous les élus sur la liste qui avaient critiqué, ils sont élus. Et le groupe, pour le coup, socialiste en Alsace au Conseil régional existe, se maintient et a une existence politique.
Ouais.
Où est la gauche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Il n'y en a plus.
Christophe Castaner a tué la gauche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2015. Et derrière, regarde. Qu'est-ce qui se passe? L'hémicycle aujourd'hui du Conseil régional, il est une nouvelle fois vide de toute la gauche. On a l'hémicycle la droite et l'extrême droite. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'il a une responsabilité. Et d'ailleurs, il est parti après à droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je te dise?
Il est pas il parti a tué à droite, la gauche. Il est parti en marche.
Bah, c'est la droite. Il a clairement fait sa scission.
Je pense plutôt que c'est celui qui a tué la gauche et un peu la droite, c'est Macron, c'est tout.
Oui, mais qui est-ce qui lui a permis, en fait,
ça? Qui c'est qui a mis Macron au pouvoir?
Je pense que Macron, il a récupéré.
C'est la somme des Christophe Castaner qui ont fait Emmanuel Macron. Hein. C'est la somme des Christophe Castaner de droite comme de gauche qui ont fait Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui a fait effectivement Christophe Castaner.
Mais il avait annoncé dès le départ, il a dit je suis de droite et de gauche.
Mais bien sûr, et c'est comme ça qu'effectivement, tous ces gens, en fait, qui ont été déloyaux, ont finalement, pas à leurs idées, pas juste à leur parti, à leurs idées, soi-disant. Parce que, en fait, ça remet en question la question de savoir si, effectivement, ils sont de gauche ou de droite. Mais
ouais, ça, c'est
parce que un autre débat. Je trouve qu'ils sont assez adaptables. Parce que moi, mon camarade, ancien camarade du SOPT, qui est en Ardèche, normalement, qui est un mec qui était socialiste et qui, aujourd'hui, est à la réforme des retraites, qui va passer la retraite à 65 ans, alors que pendant des années, il s'est battu pour la garder à 60 ans, je pense que ça nécessite un peu d'élasticité au niveau, tu vois, des idées. Donc, moi, ce que je dis là, à travers ça, c'est que la gauche, aujourd'hui, elle a été aussi tuée par ces gens, en fait, qui, par opportunisme, par carrière individuelle, alors qu'ils devaient en plus tout à leur parti, hein, parce que Christophe Castaner, il a été élu député, maire de Fort-Calquier, vice-président de la région sous Michel Vauzel, pendant plusieurs mandats, uniquement parce qu'il faisait partie du Parti Socialiste, pas parce qu'il était formidable, hein, à l'origine.
Peut-être que sur Fort-Calquier, il était légitime aussi. Parce que, tu sais, une élection locale...
Mais sans investiture et sans ton parti, tu fais rien.
On reste... Vas-y, Jeannot.
Ça concourt à la décrédibilisation du monde politique. Les gens n'ont plus confiance aux politiques.
Bien sûr.
Avec ce cinéma permanent auquel on assiste, il n'y a aucune morale, il n'y a aucune... constance dans les idées, ça peut changer. C'est très, très dommageable.